Bleu, RCFM.
France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer les jeux de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h en direct du Centre Culturel Unaholt, où il y a encore beaucoup de monde ce soir pour BD à Bastia 26e édition. C'est Serge Jakubowski qui réalise cette émission. Nous sommes là durant une heure. Vous avez largement le temps de venir nous rejoindre. Il y a quelques places encore du côté de la buvette du Centre Culturel Unaholt où Marie-Jo vous accueille avec beaucoup de plaisir. Coucou Marie-Jo. Là.
Cyril Pedrosa, bonsoir.
Cyril Pedrosa, bienvenue. Merci. Au micro d'RCFM. Merci d'être avec nous. Bonsoir, qui est là?
Lorenzo Palloni.
Lorenzo Palloni, soyez le bienvenu ici.
Merci,
à Bastia. Nous avons la chance aussi d'avoir Julie, Julie Unique, que nous saluons, qui va assurer la traduction pour l'italien. Et merci d'être avec nous. Alors, Lorenzo Palloni, vous présentez Lille. Si. On peut voir vos planches du côté de l'exposition Archipel dans le péristyle du théâtre, si les gens ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et nous allons parler de cette histoire. Quand on ouvre ce livre, on ne peut plus le refermer, tellement on a envie de connaître la suite. Voilà, une histoire haletante avec de la violence et de l'amour. On en parle dans un instant. Et vous, Cyril Pedrosa, la dernière œuvre, L'âge d'or, volume 1. Ce qui sous-entend qu'il y en aura un deuxième, voire plus peut-être.
Non, vous arrêtez à deux. Non, je m'arrête à deux.
Ouais, c'est tellement un travail de fou, on va l'expliquer. Qu'on comprend que vous arrêtiez au deuxième volume. C'est avec Roxane Morey que vous coécrivez le scénario de L'âge d'or. Et on va commencer avec vous. Publié chez Dupuis, dans la collection Air Libre. Un mot sur cette collection?
Ah, c'est une collection qui m'est chère parce que... C'est avec cette collection, avec cet éditeur en particulier, José Luboquet, qui a repris la collection Air Libre depuis quelques années maintenant, que j'ai pu développer un travail que j'avais pas forcément réussi à faire auparavant. Donc il y a, au-delà d'un accompagnement éditorial, c'est vraiment une collaboration et une espèce de compagnonnage comme ça. Ensemble, j'essaie de construire des livres avec lui et de trouver une voix, enfin, qui me corresponde et qui soit au plus près de ce que j'essaie de faire dans mon travail, en fait. Et j'ai beaucoup de liberté dans cet espace-là.
Alors, plus de liberté, se rapprocher plus du travail que vous avez envie de faire, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est-à-dire prendre le temps d'aller au bout d'un sujet, d'essayer de l'épuiser. Souvent, chaque livre, c'est une espèce d'obsession, une question qui, autour de laquelle je tourne pendant un certain temps. C'est assez long. Et puis après, il y a après, on prend à bras le corps cette question, on essaie de la mettre à plat, de la déplier, de voir tous ses sens cachés, tout ce qu'elle recèle, et d'en faire un livre. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est des temps un peu longs. C'est souvent des projets sur 3, 4, 5 ans, parfois. Mm-hmm. Et c'est possible de le faire aussi dans cet espace-là, donc, qui est la collection Air Libre. Et avec une recherche d'adéquation, comme ça, entre le récit, le dessin, trouver des échos singuliers, essayer de pas se répéter.
Dans Portugal ou dans les équinoxes que nous avons là sur la table, si vous voulez venir jeter un coup d'œil, il s'agissait de rapports humains, d'histoires, de quêtes spirituelles également, un peu autobiographiques par moments. On pense au petit Simon qui deviendra grand. On pense à vous un petit peu dans
un
cette
petit
histoire.
Peu, ouais.
Vous avez des origines portugaises, me semble-t-il.
Oui, je suis franco-portugais. Enfin, mes quatre grands-parents étaient portugais. Voilà, mais je suis un portugais la deuxième génération né en France.
Vous y alliez peu ou pas, enfant?
Non, j'y allais de temps en temps en vacances, mais très peu, parce que mes parents eux-mêmes avaient des liens distendus avec ce pays. Et ils m'ont transmis ces liens distendus qui l'ont été un peu plus dans ma vie.
Par l'écriture, par la bande dessinée, que vous vous retrouvez au Portugal un peu plus intensément, par un festival?
Oui, absolument, par hasard. Et c'est là que je me retrouve complètement reconnecté à cette histoire, à ce pays. Et puis, j'étais dans un moment un peu compliqué de ma vie. Et ça m'a posé, en fait, ça m'a permis de comprendre quel était ce vide que je ressentais parfois.
Le dessin, c'est quelque chose de très naturel pour vous. D'abord, quand on voit vos dessins, quand on voit la dextérité, quand on voit vos planches qui sont sublimes, qui sont exposées ici au Centre Culturel Unaholt, en noir et blanc pour le coup, et c'est très très fort, on sent que c'est quelque chose de très facile et naturel. Je me trompe?
Enfin, très facile. Disons que le dessin, c'est un ami d'enfance, quoi, que j'ai pas perdu. Donc, c'est le dessin, c'est l'espace où je me sens le mieux.
Dans le moyen d'expression?
dans le moyen d'expression, et même c'est quand tout va mal, heureusement il y a le dessin. Enfin, c'est vraiment le refuge en fait. Et donc il y a quelque chose. J'ai aucune virtuosité dans le dessin. Ça reste une bataille malgré tout. Il y a sans arrêt quelque chose à conquérir dans le dessin, à comprendre, à renouveler. Mais par contre, c'est un espace chaleureux. Dans lequel je me sens en sécurité, en fait, beaucoup plus que dans l'écriture finalement.
Essayer de conquérir de nouvelles formes, de nouveaux mouvements. On le fait par la contrainte, en s'imposant des contraintes, ou c'est le sujet qui.
Oui, par la contrainte. Bah, parfois, il faut trouver des dispositifs en fait pour se tordre un peu le bras. Pour sortir de sa zone de confort et de ses habitudes. Alors ça peut être des contraintes formelles, ça peut être l'épuisement physique, parfois ça peut jouer. Sur Portugal par exemple, j'ai eu une période de travail qui était très très intense. À un moment donné, j'étais en retard et j'avais une obligation absolue de faire une page par jour. J'étais vraiment très très fatigué. Donc quand on est fatigué, on fait beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'accidents, et ces accidents, c'est la promesse d'une invention. Donc
c'est des petits miracles parfois.
Ouais, parfois, ouais. Ou des grosses catastrophes, ouais. Mais en tout cas, il faut faire avec et il faut inventer, il faut trouver des nouvelles solutions, et c'est là qu'en fait on puise en soi quelque chose qu'on ne connaissait pas.
Dans L'Âge d'Or, vous coécrivez le scénario avec Roxane Morey, et on le sait, vous l'avez dit, que l'écriture prend de plus en plus de place dans votre vie et dans votre espace créatif. Il y a encore une libération dont on parlait en tout début d'émission.
Ah oui, bon, l'écriture, c'est un. Effectivement, pour le coup, c'est quelque chose de beaucoup moins simple, de beaucoup plus, je sais pas, chargé d'affect et de névrose, pour moi. Mais là, dans le cas particulier.
Est-ce que j'ai le droit d'écrire ?
Est-ce que j'ai l'autorisation ? et c'est à 35 ans, je me suis dit que, en fait, j'allais pas attendre cette autorisation et qu'il était temps de s'y mettre pour de bon. Alors là, dans le travail avec Roxane, c'est un moment particulier d'écriture parce que c'est une écriture partagée. Ça nécessite, pour qu'on puisse y arriver, d'avoir un véritable terrain commun. Et c'était le cas. Donc c'était une écriture qui était très simple, très fluide pour le coup.
Quel parcours a Roxane ?
Roxane, elle a un parcours au départ de. Elle a fait des études d'histoire de l'art, et puis ensuite elle a travaillé, et elle travaille encore comme libraire. Et puis elle participe aussi à beaucoup d'événements liés autour de la bande dessinée. On a monté ensemble à un moment donné une petite structure éditoriale. Enfin, elle fait mille choses, Roxane. Mais c'est quelqu'un. Que j'aime beaucoup, mais qui a aussi cette singularité. Enfin, elle m'apporte énormément de choses que je n'ai pas moi. C'est-à-dire qu'elle a une culture que je n'ai pas forcément. Elle m'a amené des références pour cet ouvrage, par exemple pour L'Âge d'Or, que je n'avais pas forcément.
Toute la culture d'histoire de l'art, là, en l'occurrence, on est dans une histoire médiévale. Donc j'imagine que la culture de la tapisserie, on pense par exemple aux peintres de la Renaissance, on pense à Bruegel, on pense... ça, c'est elle ?
Ah oui, c'est elle qui m'a beaucoup...
Cette nourriture-là ?
Oui, enfin, après, j'avais des choses aussi, mais elle, régulièrement, venait. Elle me posait des choses sur la table. Tu devrais regarder ça. Tu devrais. En fait, j'avais pris une première direction graphique. On a écrit toute l'histoire, les deux volumes en fait d'un bloc. C'était vraiment un tout. Et ensuite seulement j'ai commencé à dessiner et j'avais fait une trentaine de pages. Et puis j'avais l'impression de tourner en rond. Et puis Roxane n'osait pas trop me dire. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit :« Je crois qu'en fait peut-être que c'est une fausse route. Peut-être qu'il faut essayer autre chose. » Et c'est elle qui est venue me remontrer d'autres images. Elle m'a dit, va voir de ce côté-là. Et je me rappelle, en plus, elle était allée faire un tour à Paris au musée de Cluny, et puis elle m'a dit, oh, j'ai vu des choses, je t'ai envoyé des photos, enfin voilà. Et ça m'a complètement remis sur selle, en fait.
Alors l'histoire, c'est Tilda, une jeune femme qui est censée monter sur le trône puisque son père vient de décéder. Mais évidemment, il y a une force maléfique qui n'est autre que celle de sa mère qui met son petit frère sur le trône. Et donc elle doit s'exiler et partir pour tenter de conquérir ce trône avec un pro-chevalier. Évidemment, pas d'histoire médiévale sans pro-chevalier. Tancred qui est là et qui l'épaule. Elle se retrouve dans un village exclusivement féminin, l'ai-je dit, mais c'est une utopie politique.
Absolument.
À tendance féministe.
Oui.
Et en plus, c'est un grand bazar dans ce royaume, puisqu'il y a, référence à l'âge d'or, un texte antique qui circule et qui invite donc à l'égalité des uns et des autres. On peut se nourrir de fruits et on peut évidemment zapper la hiérarchie, quelle qu'elle soit.
C'est absolument ça. En fait, c'est un... Avec cette histoire-là, comme vous l'avez décrite, en fait, on voulait parler d'aujourd'hui. On voulait parler de nos aveuglements d'aujourd'hui, de nos désespoirs d'aujourd'hui, et d'essayer de... En fait, on se demandait, voilà, comment on peut rendre audible aujourd'hui l'idée que ce monde-là, tel qu'il est, n'est pas ainsi par un ordre naturel des choses, mais que c'est une construction humaine, et que donc, autre chose peut advenir. Mais autre chose d'aussi inimaginable que pour l'homme du Moyen-Âge, le monde d'aujourd'hui. En fait, je trouve toujours très étrange, vous savez, le discours du réalisme politique qui dit à la fois le monde est ainsi, et quand on dit non, le monde n'est pas ainsi, il pourrait autre, mais quoi ? Mais j'en sais rien, quoi. Je sais pas, moi, de quoi sera fait le monde dans 150 ans. Mais simplement, je sais qu'il sera autre. Et qu'on peut œuvrer à... Enfin, on peut essayer de faire quelque chose pour que cette construction-là soit à notre bénéfice commun, en fait.
Et pour imaginer quelque chose de différent dans le futur, on a tendance, évidemment, à se tourner vers le passé et à voir ce qui a été fait, peut-être bien fait, mieux fait. Mm-hmm. Et c'est ça, en fait, ce que nous dit cette histoire de l'âge d'or.
L'âge d'or, c'est, ouais. C'est ça, c'est la mémoire des combats passés, perdus et gagnés. En fait, je pense que l'étude de l'histoire nous apporte pas forcément des solutions, mais simplement, elle nous permet de regarder autrement ce qui nous arrive, de le relativiser, enfin pas de le relativiser, mais d'en faire une relecture, d'essayer de sortir de nos angles morts, on est dans un point de vue, on oublie qu'on est à une place particulière à un moment de l'histoire, et c'est nécessaire souvent de se décentrer de ça, en fait, pour voir une autre perspective. Voilà, c'est ça, c'est se déplacer pour voir une autre perspective devant soi.
C'est drôle, hein, aussi, hein. Parfois.
Non. Oui. Non, parce que là, c'est théorique.
On a l'air très sérieux, mais il y a des passages très drôles. Et
puis c'est de l'aventure, en fait. C'est pas du tout théorique. Je réponds sérieusement à des questions sérieuses, mais le livre est beaucoup plus léger que ça.
Et puis c'est complètement épique.
Oui, il y a des aventures.
C'est un conte. C'est un conte médiéval. Et puis il y a du merveilleux aussi, il y a du magique.
Il y a du fantastique.
Il y a tous les marqueurs du conte épique qu'on peut imaginer.
Hein. Oui, c'était un jeu très intéressant à faire. Mais justement, alors, dans ce travail avec Roxane, il y avait souvent dans ce jeu de ping-pong.
Elle s'appelle Roxane, dites.
Elle s'appelle Roxane, oui.
Si ça, c'est pas un prénom.
C'est pas mal. Il y avait ce jeu, vraiment cette nécessité de trouver un équilibre, de ne pas perdre la légèreté du récit, d'assumer ce. Qu'il soit divertissant, en fait. On voulait qu'il soit divertissant, mais même pour des raisons presque de stratégie politique. On voulait qu'il soit divertissant pour que le plus de monde possible le lise. On avait envie que beaucoup de gens lisent ce livre et.
Et, même les gens qui a priori s'intéressent pas à la politique
et acceptent qu'on leur parle un petit peu de politique, voilà. Ouais. Mais en même temps, parfois le divertissement prenait trop le pas, donc on revenait en arrière, on disait non, là on est en train de s'éloigner. Parfois on faisait des contresens, mais au nom de l'action. Donc c'était un jeu comme ça d'équilibre à trouver.
On pénètre dans ce livre tout de suite presque comme dans un film, voire un film d'animation, avec une scène de chasse incroyable, avec presque des monochromes, des rouges, des orangés. Alors évidemment, on connaît vos premières amours et votre formation, qui est le monde du film d'animation.
Oui, j'ai commencé. Ma formation initiale était dans le dessin animé, puis j'ai travaillé un petit peu dans les studios Disney avant de faire de la bande dessinée, en fait.
Qu'est-ce qu'il reste de ces années-là ?
Une influence graphique dont j'essaie de me défaire 25 ans plus tard, mais qui visiblement est toujours présente. L'usage du trait, beaucoup, de la ligne. Et après aussi, je crois, l'expressivité des corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'animation. Utiliser les silhouettes, la manière dont les corps se déploient dans l'espace pour raconter un moment, une émotion, un sentiment. Essayer de faire en sorte que les corps soient très expressifs.
Même sur les visages, d'ailleurs.
Oui. Et puis, un certain sens de la caricature. Mais après, c'est un piège. Enfin, moi, je parlais tout à l'heure de lutter contre son propre dessin, mais je fais ça depuis 25 ans. Enfin, j'essaye vraiment. J'ai ça en moi, mais je lutte contre ça tout le temps.
Pourquoi vous dites ça ? Parce que tout à l'heure, en antenne, on a discuté un petit peu tous les deux. Et je vous ai demandé si par hasard, comme j'avais lu que vous aviez travaillé pour Disney, si vous aviez travaillé sur le film d'animation Hercule. Parce que moi, j'ai retrouvé dans le mouvement, dans la finesse du trait, quelque chose. Et vous m'avez dit oui. Justement, je
ça
lutte.
Ça m'a beaucoup surpris.
Je
lutte contre ça, oui, vraiment. Mais parce que c'est... c'est un tic. Enfin, je parlais du dessin comme un refuge. C'est bien d'avoir ce refuge-là, mais il ne faut pas que ce soit de la paresse non plus. Le dessin, il est dans mon cas en plus. Moi, le dessin, c'est toujours un dessin pour raconter quelque chose. Je ne suis pas un dessinateur fondamentalement. J'utilise juste le dessin pour raconter des histoires. Donc, j'essaye de faire en sorte que le dessin soit vraiment au service du récit. J'ai pas la puissance d'un Bluch ou d'un David Prudhomme qui ont une espèce d'énergie dans le dessin. Je crois que c'est un élan que j'ai pas forcément. J'adorerais, mais je l'ai pas forcément. Mais par contre, ce que je sais faire un peu, c'est prendre mon dessin pour raconter quelque chose.
Et utiliser le mouvement, vous le disiez, créer le mouvement, ça c'est quelque chose, voilà, vous avez travaillé des années là-dessus, donc que vous maîtrisez, permettez-moi de vous le dire. Et en tout cas sur les expressions aussi. Et puis le décor.
Ah ben là, bon, en plus dans ce livre-là.
Ah là, c'est génial.
Non, mais il fallait ça, il fallait qu'il y ait beaucoup. En fait, à chaque fois, quand on en parlait, même quand on écrivait l'histoire, et puis on s'imaginait les planches, on s'imaginait le dessin, il faut que ce soit riche, il faut qu'il y ait de l'ornement, il faut qu'il y ait une végétation luxuriante partout. On voulait que ce soit vraiment tout dans la production, quoi. Vraiment, on met beaucoup. Parce que c'était au service de l'histoire, c'est le sens du récit, il fallait qu'il y ait du merveilleux. Mmh. Et aussi pour que ce soit un peu spectaculaire, un peu.
Mais Cyril Pedrosa, c'est un travail titanesque.
C'est du travail, c'était fatigant. Ce travail est fatigant. Mais la bande dessinée, c'est fatigant comme travail. Je pense que Lorenzo pourra me dire la même chose.
Oui, Lorenzo, hein. Il va dire la même chose, je suis sûr. C'est fatigant, Lorenzo. La bande dessinée, c'est fatigant.
Il fumetto, sì, moltissimo.
C'est à ça qu'on reconnaît les auteurs ou les autrices de bande dessinée, ils sont fatigués.
Ouais. C'est épuisé.
Souvent.
En tout cas, c'est gentil de nous accorder un peu de temps.
Je suis ravie d'être là.
Sur votre vie épuisante. Comment avez-vous travaillé? On peut l'expliquer peut-être à nos auditeurs ou aux gens qui sont ici dans la salle, parce que les couleurs sont étonnantes. Alors, je sais que vous l'avez expliqué hier pour cette fameuse rencontre, mais tout le monde n'était pas là.
Alors, c'est une technique un peu particulière. En fait, donc les dessins originaux sont des dessins à l'encre, dessinés au pinceau ou à la plume, en noir et blanc. Et le principe, c'est qu'ensuite, je les numérise, ces dessins, et les traits noirs et blancs sont transformés en traits couleurs. Donc, il n'y a plus du tout de noir dans le livre, tout est coloré. Et ce qui fait que les compositions chromatiques se font en utilisant toute cette matière, tous ces dessins, tous ces traits que je fais partout.
Plus de noir, vous voulez parler du cerne noir?
Il n'y a plus de cerné noir, voilà, il n'y a plus de noir du tout, nulle part.
Même les ombres.
Tout est un trait coloré. Et ce qui fait que, par exemple, quand moi je dessine une forêt dans le livre, il y a une espèce d'amas comme ça, très confus, de végétation partout, des buissons, des fleurs, des motifs, tout est entrelacé, c'est parfois même un peu difficile à lire sur la planche. Mais parce que je sais qu'en fait, tous ces traits, je vais pouvoir ensuite les attraper, les transformer. Là, ce sera un trait doré, là, c'est un trait orange, là, c'est un trait bleu. Et il y a quelque chose qui apparaît. La composition de couleurs, elle se fait comme ça. Mmh. Donc, c'est une manière un peu particulière de dessiner, parce que moi, je pense pas noir et blanc, je pense couleur quand je dessine. Et ça fait un résultat un peu flamboyant, comme ça.
Vous pensez couleur sur les planches qu'on peut voir exposées?
Je pense couleur. Je pense que ce que je suis en train de dessiner va devenir de la couleur.
D'accord.
Non, j'ai pas de vision de la couleur. La couleur, c'est compliqué.
On a le sentiment qu'il y a plusieurs couches, comme des glacis, si on parlait de peinture, et qu'on voit par transparence, comme ça, des...
Parfois, c'est un petit peu le cas. Ouais. Oui, mais c'est des couleurs qui sont faites avec un logiciel qui s'appelle Photoshop et qui marchent comme ça par calque. Donc, c'est des... Oui, il y a parfois des effets de transparence, il y a des lumières particulières.
Mmh. Et qui donnent comme ça de la profondeur et des ambiances. Et puis, il y a aussi vos cadres qui sont extrêmement intéressants. Je parlais de cinéma tout à l'heure, et notamment dans le début du livre, sur cette scène de chasse, avec ce zoom peu à peu, qui est très très intéressant. Ça, c'est des choses que vous avez écrites en amont
Non, ça, c'est pas décrit dans le scénario.
Ouais.
C'est plutôt des projections visuelles à partir de l'histoire. C'est un mélange de plein de choses. C'est bizarre parce que c'est la première fois, en fait, pour ce livre-là, qu'on me parle autant de cinéma, alors que j'ai l'impression d'avoir fait plutôt un livre très, très dessin, très plan. Mmh. Mais en fait, sans doute, c'est parce que, d'abord parce que même le langage du cinéma, il est influencé par d'autres langages qui l'ont précédé.
Non, et puis parce que nous sommes influencés de plus en plus par le cinéma.
Oui,
aussi,
c'est vrai,
hein,
c'est vrai. Mais par exemple, effectivement, la scène d'ouverture du livre, on peut la voir comme un travelling.
Oui.
Ou on peut la voir comme une fresque. Comme une tapisserie, c'est la tapisserie de Bayeux, en fait.
Bien
c'est
sûr.
Un récit qui se déploie avec un continuum de décor. Mais c'est pas contradictoire, ça peut être les deux.
Et je parlais de Bruegel, les scènes du village, par exemple, où il y a comme ça plusieurs bulles et plusieurs personnages. On pense vraiment, à l'ancêtre de la bande dessinée.
Ah non, alors là, pour le coup, c'est vrai que Bruegel, j'ai regardé beaucoup de ses tableaux pendant que je travaillais sur le livre. L'idée d'avoir comme ça des petites scènes très vivantes avec plein de personnages, et puis chacun, on sent qu'il a une histoire. Bruegel, c'est fascinant d'ailleurs. Il y a un visage, il y a un corps, il est incarné. On peut deviner, on peut s'inventer le récit de chacun d'entre eux. Donc évidemment, en bande dessinée, on peut pas déployer. D'abord, moi, je suis pas Bruegel, hein, malheureusement. Mais et puis, on peut pas déployer la même force plastique. Ouais. Mais on peut essayer de puiser des éléments là-dedans.
Mais il y a un truc génial dans cette idée-là. C'est ce qu'évoquait hier Jérémy Porodo, qui était avec nous à ce micro, qui est auteur de bande dessinée également. C'est que ça ralentit la lecture. Mmh. Et il nous disait. Moi, mon but, c'est de ralentir la lecture. Je passe tellement de temps, j'ai pas envie qu'on balaye mon livre en une heure.
Ça. Mais c'est vrai que c'est une des questions principales quand on fait de la bande dessinée. Hein. Comment on raconte le temps et comment on passe son temps à faire ça, je crois. On essaie de prendre le contrôle de la situation pour pousser le lecteur à passer par toutes les étapes. On lui dessine un chemin et on veut que le lecteur il aille de là à là, que là il s'arrête, que là il reprenne son chemin, etc. Bien sûr qu'en fait le lecteur il fait absolument ce qu'il veut, hein. Mais on essaye de déployer tout notre talent et tous nos artifices pour lui dire, regarde lecteur, va porter ton regard ici, et ensuite va là et prends le temps et tourne la page et tu vas voir, il va se passer quelque chose. On lui fait suivre un chemin, en fait.
Le volume 2, 2020?
2020, normalement, enfin pas normalement, il sortira en septembre 2020, donc voilà, je dois l'avoir terminé au mois de mars de l'année prochaine.
Mmh. On peut avoir quelques éléments, enfin, vraiment pas
de l'histoire.
Fondamentaux.
Ah, mais... c'est compliqué, non, c'est très 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 compliqué. Disons que si les un élément, mais qui est vraiment très général et qui va pas vous apprendre grand chose, mais c'est que.
Non, parce que la fin, elle est terrible, hein, je vous le dis.
La fin, elle est frustrante.
Non, mais carrément. Mmh. Non, mais la fin est horrible.
Oui, c'est fait exprès.
D'accord, mais, oui, mais bon, je veux bien que vous nous dirigez, que vous nous meniez par le bout du nez, mais tout de même.
Mais en fait, il y a le destin des personnages fait que des personnages très secondaires du premier tome deviennent très très importants dans le deuxième et réciproquement. Certains personnages très importants dans le premier le sont un peu moins dans le deuxième.
Donc cela nous invite à le relire et à faire plus attention aux personnages secondaires en se disant que peut-être ils vont revenir.
Absolument.
Au devant de la scène.
Au devant de la scène.
Merci, merci Cyril Pedrosa. Vous restez avec nous.
Je reste avec grand plaisir.
Parce que vous n'avez pas encore lu.
Non, malheureusement.
Le travail de Lorenzo Paloni. Et vous avez un disque pour feuilleter.
J'ai vu ces planches, par contre, qui sont exposées là-haut.
Voilà. Ouais. Les planches sont exposées du côté du péristyle du théâtre. Vous restez avec nous sur RCFM et dans Toc Toc, nous sommes en direct du Centre culturel Una Holt. Bon, j'ai un tout à l'instant que vous venez d'entendre. Et nous sommes toujours en direct du Centre culturel Una Holt pour BD à Bastia, 26e édition. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Lorenzo Paloni et Cyril Pedrosa est resté avec nous. Surtout que vous venez d'apprendre que il connaissait votre travail et que ça l'a même beaucoup inspiré. Lorenzo, sì, racontez-nous ça.
Decisamente, quando ero uno studente 12 anni fa, nel 2007, ho letto Tre ombre ed è stato fondamentale per me perché ho capito la semplicità e la potenza di una storia.
Wow.
Come può arrivare così direttamente a un lettore? Quindi,
et le hasard,
grazie.
Et le hasard vous réunit aujourd'hui. Donc Julie.
Donc effectivement, quand il était étudiant en 2017, il a découvert Trois ombres de Cyril Pedrosa et c'est là qu'il a eu un coup de cœur et beaucoup d'enseignements par rapport à la simplicité de raconter une histoire. Donc c'est ici qu'il faut travailler le plus, de rendre la simplicité de l'histoire.
Ah mais c'est formidable d'entendre.
Ouais, c'est toujours un peu trop long, mais je ne sais pas quoi dire.
Bah non, ouais. Rien, vous n'êtes pas venu pour rien dans cette émission. Lorenzo, vous êtes ici pour Lille, puisqu'on voit vos planches exposées là-haut dans le péristyle du théâtre. C'est dans le cadre d'Archipel. Ce livre est publié chez Sarbacane. Alors, ce n'est pas un livre récent, c'est un livre qui a quelques années déjà.
A tre anni, almeno a tre anni, ed è un qualcosa che ho fatto in un momento di passaggio quando da sceneggiatore puro per Sarbacane volevo provare a lavorare come autore completo. Vai, prego.
Julie, elle note. On a le temps, Julie, on a 2-3 heures, c'est bon.
Alors effectivement, c'est un livre donc qui a été fait il y a 3 ans. Et c'était un moment de passage, donc, de écrivain à dessinateur.
On va expliquer ça parce que vous êtes écrivain et ça se sent tout de suite quand on lit votre bande dessinée Lille, puisque on va en parler, on en parlait avec Cyril tout à l'heure, mais on sent vraiment que vous écrivez. Il n'y a pas de doute, Lorenzo.
Grazie mille. Sì, allora io in generale mi sento un pochino più scrittore, ho tante storie da raccontare, alcune so che devo scusate, alcune so che devo anche disegnare.
C'est le stress.
No,
vous perdez votre voix.
No, troppo
mais stress. Je l'ai, j'en ai de l'eau.
Dopo.
Buvez, Lorenzo, dopo, il faut que vous soyez à l'aise.
Non c'è problema. Non c'è problema, si può. Ah, grazie mille.
Oui, je parle avec Julie, avec Cyril pendant ce temps. Allez-y.
Oh, ah.
Vous vous sentez donc plus écrivain, allora, plus auteur au départ que dessinateur?
Sì, assolutamente. Alcune storie so che devo disegnarle, però ne ho troppe, quindi devo prendere altri disegnatori. Il primo è stato Andrea Settimo, con cui ho fatto il primo libro per Sarbacane, che è The Corner. E poi ora sto lavorando con molti altri. È uscito ora un libro per Achilleos, disegnato da Laura Guglielmo, anche lei autrice italiana. Et uscira per Sarbacane l'anno prossimo, Desolation Club, disegnato da Vittoria Masuoci.
Donc effectivement, il a énormément d'histoires dans la tête. Il continue à réfléchir à des histoires. Certaines, il sait que c'est lui qui doit devoir, il va devoir les dessiner. Mais souvent, ça arrive que il peut abandonner ses histoires à d'autres dessinateurs. Et donc, à partir de là, il y a énormément de collaborations. Si j'ai bien compris, Andrea Settimo. Mm-hmm. A collaboré pour
The Corner.
Sì. Et ensuite
Laura Guglielmo
qui a travaillé
su Amarong. Archileos, uscita adesso per Archileos.
Qui vient de sortir aujourd'hui, donc.
Sì.
Oui, le mois dernier.
Mm-hmm.
Okay.
Comment on peut se poser la question, comment un jeune auteur, un jeune dessinateur comme vous.
Non così tanto giovane ormai.
Lorenzo Paloni. Ouais, 30, c'est un vieux. Ouais. Pardon. Comment un vieux dessinateur italien se retrouve publié chez Sarbacane? Et j'ai l'impression que tout a commencé avec The Corner.
Sì, è stato un caso perché nel 2013 con questo primo progetto che avevo pensato per il mercato francese insieme a Andrea Settimo, ho lasciato il dossier durante un festival di Angoulême. Sul banco di Sarbacane, è risultato interessato l'editore Frederick, che è qua con noi, che ci sta guardando, quindi non devo dire bugie.
Ma che chance!
È risultato interessato e abbiamo fatto il primo libro. Da lì è cominciata una collaborazione e ormai siamo al quinto libro insieme.
Donc effectivement, ça a été un peu un hasard, c'est-à-dire qu'il est rentré donc justement dans le marché français grâce au festival d'Angoulême où effectivement il était donc en visite et il a laissé un dossier sur le banc de la maison d'édition. Il a suscité de l'intérêt et c'est à partir de là qu'ils ont commencé une collaboration qui a mené à la réalisation de 5 livres.
Ouais, c'est incroyable. Vous êtes allé aussi passer de la chance, 3 mois et du talent, 3 mois durant à travailler à la maison des auteurs à Angoulême. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
È stata un'esperienza bellissima.
Vous avez bien appris le français.
Come?
Come?
Hai imparato bene
esatto.
Il francese.
No, io sono andato apposta per imparare il francese. Soltanto che mi sono ritrovato in studio con due autrici italiane.
Quindi sono tornato più
italiano di prima.
Donc c'est compliqué. Donc l'expérience.
L'esperienza è stata bellissima. Ho conosciuto tantissimi autori stranieri interessantissimi. Ero vicino di studio con Matt Madden, che è uno dei più importanti autori americani di fumetto. Ho avuto modo di conoscere tantissime cose, di conoscere altre culture. Non avevo mai fatto una cena indiana, invece ero con un collega di Amruta che stava nello studio accanto a me. Abbiamo cenato con delle cose indiane, quindi mi ha aperto orizzonti anche non soltanto culturali ma anche narrativi.
Donc effectivement, c'était une très belle expérience où il a pu donc découvrir des auteurs étrangers, mais pas que. Par exemple aussi des expériences qu'il avait jamais fait, comme très très banalement, ça peut être par exemple de partager un dîner indien. Et donc ça a été un voyage qui lui a permis d'ouvrir ses horizons énormément. Et il y avait aussi une collaboration, une la connaissance de l'auteur étranger américain.
Madden.
Voilà.
Non, Julie, c'est super.
Parlo troppo.
Non, parfait. Non. Parfait, on a le temps.
Je connais pas les noms des auteurs.
Non, mais c'est parfait. Okay. L'histoire de Lille.
Si.
Alors, il y a donc un groupe de gens, de déserteurs, qui sont conduits pour être exécutés. La vie leur offre un accident. On parlait d'accident de dessin tout à l'heure, Cyril. Qui est leur véritable chance et qui leur permettra de s'en sortir et de pouvoir exécuter leur assaillant, j'essaie d'aller vite, et de créer une nouvelle vie sur cette île.
Esatto, esatto.
Voilà.
Dalla prigionia creare una società, in un'isola, in un mondo in guerra, trovare un posto, diciamo, dove poter creare una società completamente differente.
Comme l'âge d'or. Une société.
Esatto. Comunque anche la protagonista è una femmina alla fine, una ragazza. Ed è un modo per riflettere sulla fragilità della democrazia. Tendo sempre a raccontare cose molto semplici. Voglio che il messaggio che arrivi al lettore sia estremamente facile da capire, però mischiarlo, diciamo, con un genere narrativo che a me diverte disegnare, quindi può essere l'avventura, il noir, il thriller. Julie, se vuoi, prego, quando vuoi.
Donc effectivement, on passe donc de la prison à la création de nouvelle société qui est extrêmement différente de ce qu'il vivait avant. Et là aussi, donc, comme pour l'âge d'or, le protagoniste se révèle être une femme, donc on le découvre au cours de la BD. Et c'est donc une réflexion autour de la démocratie. Et la chose que pour lui est très importante, c'est de travailler sur un concept simple. Et après, d'aller le mélanger avec quelque chose qu'il aime, donc d'aller travailler sur des genres qu'il préfère. En ce cas, donc, c'était le genre de l'aventure.
L'aventure et le thriller également.
Si.
Et le roman noir. C'est une femme, et c'est une femme qui échappe à un monde terrible où les femmes sont bafouées, violées, persécutées. Donc c'est aussi un livre féministe. Parce que sans révéler la fin.
In realtà il fatto che sia una donna non è tanto importante.
Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, messieurs? Vous êtes dans l'air du temps.
E me too. Che mi spesi.
D'accord. Ouais.
In realtà il fatto che sia una donna non è tanto importante. Mi interessava il fatto che non appartenesse a quel luogo, mi interessava il fatto che fosse una cellula di un mondo differente che entrava in un mondo idilliaco, in una società idilliaca e potesse andare oltre le ipocrisie che quella società portava con sé e che potesse mostrare effettivamente quanto la democrazia fosse fragile, quanto le parole fossero vuote se non messe a confronto con l'arrivo di un diverso, di uno straniero.
Oui, donc c'est pas vraiment la femme la chose importante, c'est surtout
l'étranger.
L'étranger, exactement. Donc quelqu'un qui arrive dans notre monde et qui va donc ramener quelque chose de nouveau. qui va déboussoler en fait tout ce qui s'est passé. Et qui va réussir à aller au-delà de l'hypocrisie qui s'est créée, par exemple, dans un lieu fermé, qui va donc souligner cette fragilité de la démocratie en ce cas.
Exact. Mais ici, le prétexte de la femme, s'il avait été seulement un homme qui, en fait, s'avère être une femme, et du coup, ça apporte un peu de sexy à l'histoire, en effet, il n'y avait pas d'importance à ce que ce soit une femme. Sauf qu'à la fin, c'est quand même cette femme. Pardon, hein, sans révéler. C'est quand même. Elle va être l'une des gardiennes de l'île.
Beh, sì, allora, in un certo modo è simbolico.
On peut le dire ou pas? On peut le dire?
Possiamo dirlo, no? Sì, vabbè, ormai è vecchio.
Sa, trois ans,
lo sanno tutti.
Come la Bibbia. No, non è veramente importante, però è abbastanza simbolico. Mi interessava il fatto che io vengo da un paese dove effettivamente in Italia le donne hanno un... diciamo hanno un livello di disparità abbastanza importante a livello sociale.
No.
L'Italia.
Ah.
L'Italia purtroppo. Non è un buon posto ora come ora e da un punto di vista culturale le donne non hanno la stessa capacità culturale o lavorativa o sociale di un uomo.
C'est en effet très symbolique du moment où on pense par exemple à l'Italie, donc moi il vient d'Italie, et malheureusement en Italie la femme vit encore en disparité, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau culturel, etc. Mais malheureusement il y a encore une différence entre le traitement qu'on peut avoir avec un homme et il traitement d'une femme.
E ognuno racconta quello che vive, quindi io probabilmente vivendo quel quotidiano ho voluto esprimere in questo modo o come dire renderlo catartico.
Et donc effectivement, en vivant ce quotidien, j'ai probablement inconsciemment aussi voulu souligner cette possibilité.
Vous êtes quand même un citoyen engagé, un auteur engagé. Parlez-nous de l'association Mama Ayout ou encore du projet sur lequel vous avez travaillé anti-racisme.
Ok, sì, grazie a Mamma Aiuto sono riuscito a lavorare su tantissimi progetti. Quello sull'antirazzismo l'abbiamo fatto anche prima dell'associazione di Mamma Aiuto all'Unione Europea.
Oui.
Ed è andato molto bene a livello europeo. Eravamo un sacco di autori da tutta Europa, appunto. Mamma Aiuto è venuta dopo. Mamma Aiuto è un collettivo di autori, siamo in 10. Abbiamo un sito internet che è mammaaiuto.it dove si possono leggere in italiano, purtroppo, tutti i fumetti che facciamo gratis, che poi pubblichiamo in Italia da soli, autoprodotti e con editori. E che poi i libri poi riusciamo anche a portarli in Francia, tre dei quali sono stati pubblicati da Sarbacane.
Donc, antiracisme, ça a été créé avant Mama Youth, grâce aussi au support de l'Union européenne. Et donc, c'était vraiment un ensemble de beaucoup d'auteurs étrangers. Pour Mama Youth, ça a été créé donc en Italie, et il y a 10 auteurs. Et ils ont créé donc un site internet, mamaayouto.it, où on peut consulter toutes les BD que les auteurs ont créé, ont dessiné, tout gratuitement. Et il y a aussi toute une partie de autoproduction. Donc c'est la seule façon d'un certain point de vue en Italie pour réussir en tant qu'auteur à faire sortir des bandes dessinées, à publier des bandes dessinées en tant qu'auteur.
Et alcuni di questi fumetti sono stati anche pubblicati da Sarbacane.
Voilà, justement, oui. Une partie des BD qu'on peut lire sur le site ont été publiées par la suite par Sarbacane.
La Louve, la Cité des Trois Saints et le mese prossimo les Trois Chiens.
Et le mois prochain, donc, il y aura aussi les Trois Chiens.
Vous avez beaucoup publié. Oui, bien sûr, vous avez beaucoup, beaucoup publié et vous publiez encore.
Si, vous avez
raison de le signaler.
Oui. Si.
C'est difficile d'être un auteur en Italie, enfin de s'en sortir, d'en vivre.
Vivere di fumetto è molto molto complesso, soprattutto se non lavori per le grandi case editrici che pubblicano fumetto popolare, come può essere Bonelli. E devi veramente lavorare molto. Io lavoro su 5-6 libri contemporaneamente, sia come disegnatore che come scrittore. In più insegno in varie scuole sceneggiatura e storytelling alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, di Reggio Emilia, quindi mi muovo tantissimo e riesco però a viverci incredibilmente, però svegliandomi molto presto la mattina, andando a dormire molto tardi la sera. Dai.
Ce la puoi fare.
Courage.
Confido in Julie.
Alors, effectivement, c'est très difficile de vivre en Italie comme dessinateur, comme auteur de BD. Et parce qu'il y a toute une série de BD populaires. Et si on sort de ce style, bah, on a du mal à continuer. C'est très compliqué parce que je travaille, donc il travaille sur 5 ou 6 livres différents en même temps, en tant qu'écrivain, en tant que dessinateur.
Il est épuisé également.
Et effectivement, oui, c'est un travail très fatigant. Donc, il va se lever tôt le matin dans 7 heures. Il va dessiner, écrire toute la journée pour aller se coucher à minuit et recommencer comme ça le jour après. Mmh. Il fait pas que ça. Donc, il est aussi enseignant dans différents endroits où donc il fait du storytelling, donc l'écriture de BD.
Si.
Donc, en Reggio Emilia.
Et à Firenze.
Et à Florence.
Est-ce que vous êtes un enfant de Carlo Collodi?
Sei un figlio di Carlo Collodi.
Non
l'auteur de Pinocchio.
Non particolarmente, però mi serviva per
Pour Lille?
Per Lille, esatto. Perché c'è un piccolo pezzo del libro, una citazione. C'è una piccola citazione del libro in cui dice che il gatto, a forza di immaginarsi cieco, era diventato cieco. Questo mi serviva per legare il discorso dell'autoillusione che una società si porta addosso definendosi giusta e retta, però senza il confronto col prossimo.
Donc ça m'a servi pour cette BD, pour Lille. C'est une citation donc où le chat, à force de s'imaginer aveugle, va devenir aveugle. C'est une métaphore de ce qui se passe à cette société qui se retrouve donc isolée et qui elle a pas un regard extérieur. Et sans regard extérieur, bah tu peux pas voir tes défauts. Et c'est là que il a utilisé cette métaphore.
C'est la citation de Collodi et c'est aussi le livre secret que notre protagoniste principal va glisser au jeune enfant et on... Je dis tout, en fait. Et on verra... Et non, mais... Parce que, non, parce que je trouve que c'est un livre extrêmement fondateur. Et je trouve que tous les enfants devraient lire Collodi.
Sì, anche secondo me, soprattutto è un libro estremamente crudele.
Oui.
È un libro che mette davanti i ragazzi alla pura verità della crudeltà umana. E in un mondo completamente crudele come quello intorno all'isola de Lille mi serviva un qualche messaggio che lui di crudeltà che il ragazzo potesse portare fuori dall'isola.
Et donc effectivement dans le Pinocchio il y a tout un côté donc où on voit le côté cruel de l'homme et le besoin au niveau narratif pour Lille c'était justement qui est donc c'est toute cette violence le côté cruel de l'homme était tout autour de Lille, c'est-à-dire que c'est tout ce qui se passait en dehors et donc il y avait besoin de ramener quelque chose en dehors de Lille.
Il y a un complexe chez vous dans le Lorenzo dessinateur, puisque vous n'avez cessé de dire que vous aimez écrire, que vous êtes prof aussi de storytelling, ça pour les jeunes auteurs de bandes dessinées, et que vous êtes plutôt écrivain. À l'inverse de Cyril qui nous disait, bon moi je suis dessinateur naturellement, et mais j'écris et j'aime de plus en plus écrire, mais c'est dur, je me sens illégitime.
Che tu scrivi molto e che disegni poi, al contrario di Cyril, quindi sotto al.
Alors qu'il dessine super bien, je le dis quand même au passage.
Fa il contrario,
okay.
Alors que vous dessinez très bien.
Oui. Disegni molto bene.
Non credo sinceramente.
Voilà.
Non mi sento un gran disegnatore. Mi sento uno storyteller appena decente che spero fra 15 anni sia abbastanza bravo, ma non lo so ancora. E io personalmente disegno per necessità, perché sento che devo farlo, come racconto, anche è una necessità per me, non potrei fare diversamente. E le cose nascono contemporaneamente, sento che deve essere disegnato in un certo modo, sento che quella storia ha bisogno di quella identità, infatti cambio segno per esempio per ogni libro che faccio, e questo è un problema per la mia identità di autore. Io sapevo che per Lille sarebbe voluto un pennello, mentre per la Louvre un pennarello per dare l'idea del thriller. Quindi ogni storia ha la sua identità e io seguo quella.
Donc, oui, en fait, il ne pense pas d'être un bon dessinateur et pas non plus un bon storyteller. Et il dessine par nécessité, donc c'est vraiment une chose qui sent, et je dois le faire, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est dicté par le cœur. Et pour chaque histoire, donc, il va automatiquement sentir si c'est à lui de faire les dessins, de comment les faire. Par exemple, pour l'île, il y avait cette nécessité d'utiliser le pinceau. Au contraire, par exemple, pour la Louve, c'est le feutre qui va ressortir parce que ça va aider plus dans le thriller, parce que c'est une BD thriller. Et donc, chaque histoire va avoir sa technique. Et en même temps, il n'arrive pas à trouver donc un signe qui est propre à lui, mais c'est un signe qui va toujours changer. Et donc chaque BD a sa propre identité. Il n'y a pas un style qu'on va dire reconnaître, c'est Lorenzo Palloni. C'est toujours changeant.
Comment vous réagissez à ce que vous entendez, Cyril Pedrosa?
Moi, j'adore cette démarche. Enfin, ouais. Je trouve que c'est... Bon, après, chaque auteur a une très très bonne raison de faire des choix et de prendre des décisions dans la manière d'orienter son travail, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça, cette idée de chaque récit doit trouver sa propre forme et sa propre voix, en fait.
Chaque signe pour chaque histoire, presque.
Oui, c'est exactement ça. Je trouve ça passionnant. Et puis c'est surtout que c'est la promesse d'un renouvellement permanent dans son travail. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de trouver. Et donc c'est la promesse de pas mal de travail, mais aussi de beaucoup de joie là-dedans.
C'è anche il problema che io mi annoio molto rapidamente, è noioso disegnare sempre le stesse cose, quindi c'è anche una giustificazione per cambiare stile.
Voilà, il y a aussi tout un côté lié justement à l'ennui, donc il s'ennuie énormément, et voilà, si on change de style, de dessin, etc., bah là, ça sera plus agréable de dessiner.
Mais vous aussi, même si vous gardez une patte, évidemment, on reconnaît vos dessins, mais vous disiez, Cyril, j'essaye de me défaire aussi de ce que j'ai appris. On sent bien qu'il y a un signe différent pour chaque œuvre.
J'essaie de faire ça, oui, j'essaie de faire en sorte que chaque livre soit pas différent par principe, mais parce que ce sont des récits différents, des enjeux, des questions différentes, donc il faut trouver une forme différente. Et puis effectivement, ça permet aussi d'éviter l'ennui. La bande dessinée, c'est long. Si c'est pour répéter toujours le même motif. Alors après, c'est-à-dire que il peut y avoir une très grande puissance créatrice aussi dans la répétition d'un motif. Je sais pas, Astérix, c'est un univers qui se répète, qui se redéploie à chaque album, et ça peut être passionnant, ça. Mais il faut être animé de ça. Je pense que c'est aussi une question de tempérament. Moi, c'est pas le mien, et c'est sans doute pas celui de Lorenzo, je pense.
Mesdames et messieurs, vous savez évidemment que Cyril Pedrosa signe l'affiche de cette année. Et nous terminerons là-dessus pour vous dire un grand bravo.
Merci.
Parce que vous savez, on est très fiers, nous, en tant que Bastiais, que Corse, quand l'affiche nous plaît beaucoup, c'est un peu comme si nous l'avions réalisée. Donc, on voudrait vraiment vous remercier.
Merci à vous, je suis ravi, mais c'était une très belle occasion.
Racontez-nous juste en deux mots, comment vous l'avez pensé, comment elle est née, cette affiche 2019 de BD à Bastia.
Elle est née dans un moment de très grande tristesse, d'événements, mais qui ont encore lieu aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent en Méditerranée et avec le sentiment que tout était absolument pas fait pour essayer de les sauver, de leur venir en aide. Et il se trouve que la Corse et les Corses ont été de ceux qui ont dit, mais non, on peut pas laisser faire ça. On aide nos frères, quoi. Voilà. Et c'était, ça allait pas de soi, forcément. En tout cas, pour moi, disons, de proposer cette histoire-là et ce récit-là pour le festival de Bastia. Ou pour un festival de bande dessinée. Mais il se trouve que très naturellement, quand j'en ai parlé à Johanna, elle l'a accepté comme une évidence. Donc, moi, j'étais ravi, en fait.
Johanna Macari, donc directrice du centre culturel Una Holt. Et voilà, Bastia comme un phare dans la nuit, pour l'entraide, pour la culture.
Quelque chose comme ça.
Ouais, c'est un message qu'on aime bien. Merci, Laurent. Lorenzo Palloni, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Julie Hoon et merci évidemment Cyril Pedrosa.
Merci à vous.
Et c'était Serge Jakubowski qui réalisait cette émission.
France Bleu RCFM.